bonsoir et bienvenue à l'IFEA pour cette conférence débat organisée par l'ADFE Istanbul. Donc nous tenons à remercier l'IFEA d'avoir accepté de nous recevoir et en particulier son directeur Jean-François Pérouse qui a rendu possible cet événement. Donc très rapidement deux mots sur notre association et sur notre programme à venir. L'Association démocratique des Français de l'étranger, l'ADFE, a été renommée Français du monde en 2007. C'est une association créée dans les années 80 dans le but de représenter les Français de l'étranger. Elle rassemble toutes les personnes de sensibilité de gauche sans pour autant appartenir à un parti politique. Et elle organise toutes sortes d'activités festives, culturelles et sociales. Donc concernant notre programme, nous vous proposons trois prochaines activités. Tout d'abord, une réunion d'information sur les bourses scolaires mardi 14 janvier animée par Bernard Burgarella, fort de 20 ans d'expérience en la matière. L'ADFE siège en effet avec droit de vote aux commissions locales et nationales de bourses au consulat général de France. Deuxièmement, un pot convivial organisé le jeudi 27 février au Publico Place Tunnel. Et troisièmement, une conférence débat animée par Élise Massica, chercheur et responsable de l'OVIPOT, Observatoire de la vie politique en Turquie, sur le contexte politique turc juste avant les élections municipales turques de mars, du 31 mars 2013.
14.
Donc vous pouvez vous inscrire pour cette conférence sur une feuille ici présente. Vous pouvez également noter votre email sur une feuille annexe pour recevoir toutes les informations concernant nos prochaines activités. Il y a également des bulletins d'adhésion si vous souhaitez adhérer à notre association. La conférence de ce soir de Jean-François Pérouse, chercheur spécialisé entre autres dans l'urbanisme à Istanbul, porte sur les grands enjeux urbanistiques d'Istanbul à la veille des élections de mars 2014. Alors le format est le suivant, 45 minutes de conférence, puis d'un débat. Donc l'occasion de vous donner la parole pendant une heure et quart.
Si c'est possible. Plus ou moins,
j'espère plus ou moins.
Les bavards.
Et donc de bénéficier de l'expertise de Jean-François. Sans oublier un verre que vous nous offrons dans la foulée juste après cette conférence débat. Donc nous souhaitons de passer une excellente conférence.
Et donc la parole à Jean-François.
Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Cette soirée où semble triompher la diplomatie économique, comme vous l'avez vu, le bâtiment de l'IFEA bénéficie des lumières qui illuminent davantage le palais de France. Nous allons essayer donc d'évoquer les grandes questions, et il n'en manque pas, relatives à l'urbanisme d'Istanbul. Alors, dans un jour... J'ai dû rectifier ma communication, où l'actualité est particulièrement brûlante. Vous avez peut-être eu vent du fait que ce matin, à l'aube, quatre enfants de ministres ont été arrêtés, fils du ministre de l'économie, fils du ministre de l'environnement et de la ville, fils du ministre de l'intérieur. Voilà, l'ancien préfet d'Istanbul, et j'en passe. Le fils d'un grand homme d'affaires dont nous allons reparler, qui est un des grands transformateurs de l'Istanbul contemporain, qui est Ali Ağaoğlu, l'homme de Maslak 1453 et l'homme d'autres grands projets. Bref, alors il est évidemment un peu tôt pour... se prononcer sur ces arrestations, mais en tout cas elles sont liées à la, disons, à la rente étourdissante qu'offre l'Istanbul contemporain et dont la gestion eh bien, semble avoir échappé à la rationalité de l'AKP, hein, avec ses enfants, hein, d'hommes politiques et de députés qui semblent avoir un peu abusé. Hein. On a là un dérapage. On avait eu le premier dérapage, hein, en tout cas flagrant, évidemment, avec l'affaire Guézi, nous y reviendrons, hein, où là, le mode de gouvernance, hein, dominant à Istanbul, au détriment de la volonté de promouvoir les pouvoirs locaux, hein, a été violemment, nettement mis en cause, hein, pour la première fois de manière aussi, disons, ferme, par la population concernée. Et là, deuxième craquement, en quelque sorte, hein, et non des moindres, hein, on savait qu'il y avait, on supposait, mais rien ne remontait, mais là, donc dans la conjoncture aussi, hein, d'une, disons, de tension, hein, au sein de la, disons, de la majorité qui avait tenu et qui portait, hein, les gouvernements AKP jusqu'à présent, eh bien, ces affaires remontent, hein, qui sont liées, semble-t-il, à une opération, hein, qui, elle aussi, avait suscité beaucoup de débats, hein, qui est l'opération de transformation urbaine de Sulukule, hein, au sein de la péninsule historique. Hein. Rappelez-vous, ce quartier qui avait été donc rayé de la carte, hein, et transformé, ce quartier en partie, hein, habité par des populations tziganes. Et le maire de Fatih, hein, aurait été arrêté, hein, en relation avec la transformation de Sulukule. Donc, une actualité un petit peu étourdissante. Je ne parlerai pas des grands projets, hein, au nombre infini. C'est de l'ordre, hein, pour toute la Turquie, c'est de l'ordre. Ça a été estimé maintenant que les capacité de financement de ces grands projets semble quelque peu ébranlée, hein, pour toute la Turquie, de l'ordre de 700 milliards de dollars. Hein. Et c'est plus de la moitié qui concerne Istanbul, hein, tous ces grands projets dont on nous rebat les oreilles, hein, grands projets urbains, grands projets d'infrastructure. Hein, donc c'est énorme. Et depuis le début de l'été, on s'interroge sur la capacité à financer, du fait des difficultés maintenant à emprunter, hein, sur les marchés internationaux, en tout cas, des difficultés croissantes. Donc, je ne parlerai pas trop de ces grands projets, hein, même si je les évoquerai. Je voudrais rappeler, hein, que l'actualité urbaine, elle est marquée par un grand mot d'ordre, hein, qui est en quelque sorte la politique unique, mais qui cache en fait des stratégies et des coalitions d'intérêts assez différentes, hein, c'est la transformation urbaine. Kentsel de Nuşum, hein, c'est le maître mot, mais il faut bien voir, hein, que cette expression, eh bien, correspond à des opérations, à des aménagements très différents selon les terrains et selon les périodes. Alors, en ce qui concerne les terrains, on peut distinguer quatre terrains différents. On a la transformation urbaine au centre, dans les quartiers historiques, où là, on y reviendra en deuxième et troisième partie, les enjeux sont des enjeux de restauration ou de restitution liés à l'économie touristique. On a la transformation urbaine contre les risques de tremblement de terre, et c'est devenu, depuis la loi de mai 2012, hein, le mode dominant de transformation urbaine. On a la transformation urbaine en périphérie informelle, qui vise à légaliser, consolider un tissu urbain qui est apparu de manière spontanée dans des arrondissements comme Küçükçekmece ou Esenyurt, hein, où 80%, 90% du tissu urbain, hein, a été construit sans aucune norme, hein, donc dans l'improvisation totale. Et enfin, on a une quatrième dimension de la transformation urbaine. Il ne faut pas tout confondre, c'est la dimension désindustrialisation. Donc dans un arrondissement comme Kartal ou dans un arrondissement comme Zeytinburnu, là on a des enjeux qui sont liés en fait aux choix stratégiques pour Istanbul, qui sont des choix, hein, du tout tertiaire, du tertiaire supérieur, de la ville financière. Hein. Et donc on a depuis un certain nombre d'années une désindustrialisation, un démantèlement du dispositif productif à Istanbul, hein, dans les arrondissements centraux et péricentraux. Hein. Vous avez ces zones industrielles des années 50, 60, ce qu'on appelle Topkapı, mais hors des, ou Bayram Pasha, déjà hors des murs, hein, complètement obsolètes à l'heure actuelle. Et le dispositif productif se redéploie vers des arrondissements beaucoup plus périphériques, vers des départements plus périphériques, vers des pays étrangers. Et c'est intéressant de voir que Istanbul redéploie dans des pays de l'Union européenne, comme la Roumanie, où les coûts de la main-d'œuvre maintenant sont moins chers, hein, ou la Bulgarie. Donc ces quatre dimensions, et à ces quatre dimensions s'ajoutent quatre types de montage. Et là aussi, la confusion est totale, hein, malheureusement, quand on parle de transformation urbaine. Vous avez la transformation urbaine décidée par le pouvoir central en Conseil des ministres. C'est ce qui se passe donc depuis la loi de mai 2012, hein, sur la transformation des territoires qui sont exposés à des risques. Hein. Et là, vous voyez, chaque semaine, on a le Conseil des ministres, hein, délimite un nouveau territoire. Et là, pour Istanbul, par exemple, c'est un certain nombre de centaines d'hectares, hein, qui sont concernés. Nous avons, en deuxièmement, une transformation urbaine qui est décidée à l'échelle des arrondissements. Et là, on pourrait citer l'exemple de Fatih, de l'arrondissement de Fatih. C'est ce qu'on appelle plutôt le yenileme, le renouvellement. Donc là, ça suit d'autres procédures. On a une transformation urbaine, troisième type de montage en quelque sorte, par le secteur privé, qui se fait maintenant et qui court-circuite les acteurs, disons, publics, qu'ils soient centraux ou locaux, de la transformation urbaine des deux premiers montages, et puis un quatrième type de montage, hein, qui est la transformation urbaine spontanée, hein, par des petits acteurs, hein, et qui est en fait la plus importante. Hein, et quand on voit ces cinq dernières années, hein, les changements dans Istanbul, on peut attribuer ces changements davantage, hein, à la transformation urbaine, en quelque sorte spontanée, avec des aides, hein, sur ce qu'on appelle ici la mantolama. Vous savez, c'est vraiment du façadisme. Hein. On plaque, hein, des éléments d'isolation ou autre, hein, on plaque, etc. Et ça, c'est un élément de cette transformation qu'on oublie, qu'il ne faut pas confondre, hein, avec la transformation, hein, telle qu'elle peut être imaginée et, disons, développée par d'autres acteurs. Quand on parle d'Istanbul, hein, pensons à trois dimensions territoriales. Trop souvent, on est concentré, hein, sur l'hypercentre, hein, c'est-à-dire en fait à peine 5% de la superficie actuelle de l'aire urbaine, hein, qui s'étend, hein, de Kocaeli ou İzmit, hein, à Silivri. Hein. Et il faut pouvoir, pour comprendre les dynamiques actuelles, hein, les transformations, pour comprendre aussi, disons, les nouvelles dynamiques politiques, hein, parce que les centres de gravité démographiques, hein, ne sont plus évidemment à Beyoğlu, hein, ou à Fatih, hein, ils sont ailleurs, ils sont à Gazi Osman Pasha, ils sont à Sultanbeyli, ils sont à Esenyurt, hein, ou ils sont à Pendik, Tuzla, hein, et donc il faut pouvoir embrasser l'ensemble de cette aire urbaine qui dépasse, hein, largement dorénavant les limites du seul département d'Istanbul. Hein. On a donc ces deux dimensions extrêmes, hein. D'un côté, l'Istanbul, hein, de l'imaginaire touristique. De l'autre côté, le grand Istanbul qui déborde le département. Et puis, on a intermédiaire, hein, l'Istanbul qui est géré par la municipalité d'Istanbul, hein, avec ses, alors, fin décembre 2013, hein, ses 13,8 millions d'habitants. Donc, chaque fois que l'on parle d'Istanbul, tâchons, hein, de préciser, pour éviter des méprises, hein, déplorable. Bien, donc cette aire urbaine, hein, que j'ai évoquée, hein, ici elle est représentée par l'agence d'urbanisme d'Istanbul, hein, selon ici aussi elle enveloppe un ancien arrondissement d'Istanbul, hein, qui a été très frappé par le tremblement de terre d'août 99, hein, Yalova. Donc vous avez des définitions variables, hein, selon les auteurs, je n'y reviens pas. Alors, premier enjeu, alors bon, je rappelle mon approche, hein, qui disons, éviter l'approche trop passéiste, monocentrée d'Istanbul pour réinscrire la métropole dans des dynamiques internationales et investir dans des territoires plus banals où se joue l'avenir d'Istanbul. C'est un peu le travail qu'on essaye de mener. Alors, premier enjeu, maîtriser et réguler la croissance physique d'Istanbul à l'heure d'un relatif plafonnement de la croissance démographique. Là encore, il faut rompre avec un certain nombre de lieux communs sur Istanbul relatifs à la pression migratoire ou à la croissance. La croissance n'est plus du tout, depuis le milieu des années 90, étourdissante, et elle est essentiellement due à la dynamique naturelle, elle n'est plus due aux migrations. Mais néanmoins, il y a un décalage entre l'imaginaire dominant et le discours des politiques et la réalité démographique. Donc, on a un déphasage du fait de ce plafonnement entre la croissance démographique et la croissance physique de l'agglomération. Istanbul est un cas saisissant, offre un cas saisissant d'étalement urbain. Et on verra les conséquences en termes environnementaux de cet étalement urbain. L'étalement urbain, la croissance physique de l'emprise urbaine n'est pas à la mesure de la croissance démographique actuelle. Elle est beaucoup, beaucoup plus importante. Et ça, c'est le résultat de politiques liées à la transformation urbaine, politiques de déconcentration, de développement de nouveaux territoires d'urbanisation, très loin, on y reviendra. Ici, bon, vous avez, si on s'inscrit dans une perspective historique un peu longue, une idée de cet étalement, des images de cet étalement, ici aussi, ici à travers les images satellitales, donc 1975, c'est pas très parlant, mais quand même, vous voyez, en gris, où on a, bon, relative concentration autour de la Corne d'Or et le lac de Küçükçekmece, celui de Büyükçekmece ne sont pas encore atteints. Et donc 2011, l'étalement est assez frappant. Il est aussi frappant, encore plus frappant, sur la rive asiatique à la suite de l'ouverture du deuxième pont. Alors cet étalement urbain, eh bien, il correspond dans le paysage, à ce type de tissu, des très mêlés à la fois des coopératives, ici on est du côté de Esenyurt, à la fois des blocs, les apart condo, le logement, disons, les constructions spontanées à l'heure actuelle à Istanbul ne sont plus, et je ne vous parlerai pas de Gece Kondu, même si c'est très pittoresque, et même s'il y a une espèce de nostalgie et il y a une fixation sur Gece Kondu, la réalité du logement spontané à l'heure actuelle à Istanbul, du logement autoconstruit, c'est l'immeuble en béton, ce qu'on appelle l'apart condo. Ici, vous en voyez, vous les voyez dispersés, sans aucune logique. La trame vient souvent après, les infrastructures viennent souvent après. Puis là, on est à nouveau sur les hauteurs des opérations qui sont un peu plus organisées sous la forme de coopératives. Ici, donc, ces fameux Gece Kondu, mais qui ne constituent plus du tout l'essentiel. Si on s'en tient à une définition, là encore il faut être précis sur les termes, à une définition rigoureuse du Gece Kondu, à la fois architecturale et juridique, donc des maisonnettes développées, donc sans étage, développées rapidement sur des terrains n'appartenant pas à ceux qui les construisent. Ici, vous avez une vision de ce qu'était un des arrondissements périphériques de la rive asiatique qui a été maintenant arrimé à l'ère urbaine de ce qu'était Sultan Beyli au milieu des années 90. Et vous voyez, alors qu'un certain discours politique continue à parler de Sultan Beyli comme d'un arrondissement de Gece Kondu, non pas du tout, vous avez dès le début un développement d'apart Kondu, et là on a une consolidation à la fois physique et juridique de ce type d'habitat. Mais l'étalement urbain à l'heure actuelle, et c'est vraiment le nouveau mode de production des périphéries, maintenant se fait non plus de manière spontanée du fait des personnes, hein, des ménages construisant des aparcondu, hein, mais se fait à l'initiative des pouvoirs publics, centraux et locaux, hein, sur les terrains publics qui sont encore en grand nombre, hein, dans des zones qui sont désignées par les pouvoirs publics comme nouvelles zones de développement, hein, et par conséquent, et j'insiste là-dessus, ce sont les pouvoirs publics qui sont les acteurs, hein, principaux de l'étalement, hein, et qui donc portent la responsabilité de cet étalement à l'heure actuelle. Ici, vous avez Spartakule, hein, qui est un des développements près de Bahçeşehir. Et ce que l'on appelle, hein, la transformation urbaine, hein, disons, un des effets de la transformation urbaine, c'est précisément le développement de zones d'habitat collectif, hein, en périphérie pour pouvoir, hein, accueillir les habitants des zones transformées, hein, dans le centre ou en péricentre. Hein. Ici, un exemple, là, encore du côté de Spartakule. Je reviens à mon... Donc, on a, hein, si vous regardez les plans, on a deux plans, master plans, hein, des plans d'aménagement, hein, à l'échelle de les deux derniers, 2006-2009, ils assignent à Istanbul très clairement une vocation, hein, de grande place financière, de place de tourisme international, et ils désignent, hein, des nouveaux territoires de développement, hein, le nouvel Istanbul, hein, donc si on regarde le plan de 2009, hein, du côté au nord-ouest, hein, de Başakşehir, entre Başakşehir et Çatalca, avec plus de 2,5 millions d'habitants qui sont programmés, et Kayaşehir, hein, est un des noyaux, hein, de ce nouvel Istanbul, développé en partie par un opérateur, hein, principal, hein, qui est TOKİ, l'administration du logement public, hein, dont le ministre actuel, hein, de l'environnement et de l'urbanisme, hein, a longtemps été, hein, entre 2004 et 2009, hein, le directeur. Dans ce contexte-là, les infrastructures, que ce soit les infrastructures pour les services élémentaires ou les infrastructures de transport, hein, eh bien, sont dans une logique, hein, de rattrapage, hein, difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, et les infrastructures de transport ne jouent pas, hein, leur rôle, hein, disons, leur rôle d'informateur, hein, de la croissance urbaine, ne peuvent pas, hein, donner, disons, les grandes directions de celle-ci, mais au contraire, hein, essayent de difficilement, hein, suivre cette croissance urbaine et de la rattraper. C'est pas tant, hein, nous y reviendrons pour le réseau de transport en site propre. Hein. Dans ce contexte-là, on a une planification, hein, qui est en fait un leurre. Hein. Vous avez des planificateurs urbains très compétents en Turquie, des instances nombreuses, parfois concurrentes. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de l'IMP, hein, le Centre donc, métropolitain de planification et de design urbain. L'IMP institué en 2005, hein, parallèlement donc à une structure compétente à la mairie d'Istanbul, hein, qui est la direction de la planification. Et il y a objectivement une situation de concurrence. On a là des personnes très compétentes, une production importante de plans, hein, mais qui n'ont pas d'effet, hein, sur l'évolution réelle de la métropole, hein, qui se développe de manière plus opportuniste, hein, et selon d'autres logiques, hein, que celles qui sont inscrites dans les plans. Hein. Donc on a... contre la planification joue la logique de grands projets, qui est une logique ponctuelle, hein, de prestige, et une logique opportuniste d'une part, et la logique du design urbain, et d'ailleurs maintenant de plus en plus les planificateurs font du design urbain, hein, donc on est plutôt dans le façadisme, hein, dans l'arrangement, hein, et une partie de la transformation urbaine en fait consiste davantage, hein, en design urbain. Autre chose, on verra des exemples. Bien, bon, tout ceci, c'était des rappels, hein, mais je pense important pour poser le décor. Vous voyez des exemples de tirer des derniers plans de zones de redéploiement. Donc on a vraiment une politique de desserrement des activités, notamment tertiaires, mais aussi des activités industrielles vers l'extrême ouest ou vers l'est. Ici aussi, selon le dernier master plan de 2009, des secteurs qui sont désignés, Kayabashospar, Takoulé ou Silivri ou Tuzla. Mais, je veux dire, ces plans, on peut les étudier longtemps. Je pense qu'il ne faut pas y passer trop de temps dans la mesure où ils ne nous renseignent pas beaucoup, ils nous renseignent sur certaines intentions, mais sur la réalité des dynamiques en cours. Néanmoins, dans les objectifs formulés, on peut quand même voir un certain nombre d'intentions qui sont récurrentes depuis la fin des années 90, à savoir promouvoir Istanbul sur le marché international. Et d'une certaine manière, et le Parti de la Justice et du Développement a été l'acteur de cette mutation, les pouvoirs jouent Istanbul contre le reste du territoire turc, jouent Istanbul contre Ankara et font d'Istanbul la grande vitrine de la Turquie qui est brandie avec fierté au monde. Et vous savez qu'on a une polémique même sur le fait que Istanbul la Turquie est de plus en plus gouvernée d'Istanbul. Vous savez que depuis quelques années, le Premier ministre dispose de bureaux magnifiques. Il a eu quelques problèmes lors des mouvements de Gezi, d'ailleurs, Beşiktaş. D'ailleurs, il envisage maintenant de se redéployer sur Çengelköy, dans un köşk de Vahadettin. Mais donc, il est maintenant, objectivement, il passe plus de temps à Istanbul qu'à Ankara. Et le grand projet de centre financier international pour Istanbul, là aussi, va aboutir à, disons, supprimer Ankara un certain nombre de prérogatives en matière de gestion de la vie économique et de la vie financière, avec le déplacement de la banque centrale, le déplacement des grandes banques publiques, Ziraat Bankası, Halk Bankası, le développement d'un certain nombre d'organismes de l'organisme de régulation des marchés financiers. Enfin, vous avez une situation de fait là qui est en train de se créer, qui remet en cause d'une certaine manière le projet républicain qui avait institué Ankara comme capitale, pas seulement politique. Corrélativement, donc, deuxième enjeu, résoudre la question lancinante du logement. On pourrait là en parler beaucoup. J'ai déjà dit deux mots du Gece Kondu. En termes de qualité, c'est évident, plus par la requalification de l'existant que par la fuite en avant. Là, actuellement, on est dans une logique de fuite en avant. On fait du neuf, du neuf, du neuf, et on ne se soucie pas de l'amélioration de l'existant, du parc existant. En termes de quantité, alors c'est un vaste débat. C'est-à-dire que vous avez très clairement, et même au sein de la municipalité, vous avez un débat entre ceux qui pensent et qui sont liés évidemment à des groupes d'intérêt, qui sont des constructeurs, qui veulent du neuf, qui disent ah mais il y a un déficit il y a un déficit de logements à Istanbul, il faut construire au moins 250 000 logements par an à Istanbul, et d'autres au sein de la même institutions qui disent non, attention, il y a près d'un million de logements vides à Istanbul, donc remplissons ces logements avant de construire du neuf. Là, vous avez vraiment deux logiques, deux diagnostics différents, deux logiques différentes. Mais je crois qu'il faut être attentif et ne pas céder à ce discours qui utilise la menace démographique, qui utilise la pression migratoire pour justifier la construction de nouveaux logements. Quand vous regardez les chiffres, entre 2001 et 2011 de construction de logements en Turquie, alors les logements déclarés, ça n'est qu'une partie évidemment des logements effectivement construits, mais c'est multiplié par 5 entre 2011 et entre 2001 et 2011. C'est-à-dire qu'on passe de un peu moins de 150 000 à près de 700 000 pour 2013. Istanbul, c'est un tiers. Sur ce tiers, vous avez de logements officiellement construits, déclarés, c'est-à-dire qui bénéficient d'une autorisation de construction. Ce qu'on appelle les logements de marques, marques à l'économie, et les logements Toki, c'est même pas 20%. Hein. Donc là encore, il faut être très prudent. Hein. Tout le discours dans les journaux, on ne voit que ce niveau hein, de la production de logements, les logements Toki et les logements marques à l'économie. On a d'autres acteurs quand même qu'il faut prendre en compte. Et vous avez aussi ceux qui ne sont pas déclarés. Donc c'est un peu plus complexe, hein, qu'on se laisse parfois un peu éblouir hein, par le discours. Donc quelques... Alors je ne résiste pas à ce choc-là, cette photo. En plus, Recep Tayyip Erdogan, Jad Desi. Donc vous avez là hein, les deux âges hein, de la construction spontanée à Istanbul. Hein. Le petit Gece Kondu, hein, tel qu'il pouvait être construit dans les années 50, 60, 70, hein, 80, et ensuite hein, l'appart Kondu, hein, ici. Bon, un exemple de ces acteurs privés qui polluent par leur discours, par leur omniprésence hein, à la télévision, dans les grands journaux, hein, à Oulu, hein, ici, qui a été un des acteurs... Hein, un des pionniers de la transformation urbaine hein, et un des partisans de la transformation urbaine dans le premier site hein, qui est Ayazma au nord-ouest hein, d'Istanbul près du stade olympique hein. Donc c'est en 2007 hein, je le cite parce que ça crée un précédent hein. Donc là on est dans le type transformation urbaine, hein, transformation d'un tissu urbain jugé indigne d'une grande capitale, hein, et donc nécessité d'embellir cette capitale hein, en la dotant hein, de constructions dignes d'elle, dignes de l'image qu'elle veut donner au monde. Hein, et donc c'est en février 2007 qu'a été détruit le quartier spontané d'Ayazma, qui est un quartier de Gece Kondu. Première définition, hein, et qui a été remplacée par une énorme opération hein, qui s'appelle My World Europe, hein, du dénommé Aolu, hein, 3500 logements de très haute gamme, hein, et qui vise un marché international. Hein, j'ai passé du temps dans le showroom, hein, vous avez des personnes qui parlent russe, hein, qui visent une clientèle bien spécifique, des personnes qui parlent l'arabe, hein, des personnes qui parlent anglais, hein, on vise vraiment une clientèle internationale, mais on est hein, vraiment dans le haut du segment, mais là on a la preuve la plus flagrante que la transformation urbaine, contrairement au discours hein, officiel qui dit la transformation urbaine, hein, c'est bon pour vous, hein, qui dit aux habitants de base hein, à Istanbul. Là, ça a servi simplement hein, à libérer un terrain qui est bien placé, à proximité du stade olympique, à proximité de la zone de Ikiteli, hein, la zone d'activité, à proximité du deuxième périphérique autoroutier. Hein, et parallèlement, hein, on a eu un autre, parallèlement à Ayazma, un autre terrain qui lui a été dévolu, hein, où là, 100 Gece Kondu avait été détruit au même moment, hein, février 2007, dévolu à ce qui va être sans doute le plus grand centre commercial de Turquie, hein, Mall of Istanbul, hein, sur l'image Mall of America, Mall of Dubai, hein, construit par le groupe de Torunlar. Hein, les Torunlar, c'est très important, ils sont liés à Killer, hein, député de la KP de Bitlis, hein, et ils ont pris la tête de l'organisation. Hein, et c'est fascinant, en 30 ans, hein, l'ascension hein, de cette famille Killer hein, et des Torunlar, puisque les Torunlar prennent la tête de l'association des investisseurs immobiliers de Turquie, hein, Gyoder, hein, il y a quelques temps. Et donc là, on a vraiment une nouvelle génération qui apparaît et qui est celle qui profite hein, des terrains libérés par la transformation urbaine et qui sont dans des relations assez privilégiées hein, avec le pouvoir. Bon, là, vous ne voyez rien, donc ce n'est pas très intéressant. J'en viens au troisième enjeu, régénérer les quartiers historiques hein, sans verser dans la caricature ou le révisionnisme historique. Et je crois que c'est vraiment un enjeu très, très important à l'heure actuelle, compte tenu du patrimoine, hein, en tout cas du potentiel patrimonial hein, d'Istanbul, donc classé en 1985 par l'UNESCO. On le sait, eh bien, les efforts qui sont faits en termes de réhabilitation, hein, de valorisation, ne sont peut-être pas à la hauteur de cette richesse, hein, considérable. Alors, ici vous avez, hein, les secteurs qui sont protégés, hein, en vertu de la loi sur les sites classés, hein, du début des années 80, hein, qui en quelque sorte intègre, et préfigure, hein, ce que l'UNESCO va classer. Et donc les politiques, hein, de restauration se heurtent à un certain nombre de difficultés, dans la mesure où, bien souvent, elles n'ont pour ambition que de satisfaire, hein, l'économie touristique, hein, ou de satisfaire, hein, disons, l'économie symbolique, en valorisant des portions, hein, de ce patrimoine, des moments, hein, de l'histoire qui sont, disons, sélectionnés de manière souvent arbitraire. Alors, je ne vais pas, ça on pourra en reparler, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est la folie actuelle, la folie dans disons, dans l'entreprise de restauration, hein, la folie de la reconstruction et la folie de la référence, hein, ottomane. Ici, hein, vous avez, on est du côté, enfin vraiment dans la périphérie, à un moment, lors d'un discours du Premier ministre, hein, et le parallèle est fait, hein, entre, un parallèle, bon, vous savez qu'il est fait fréquemment et qu'il flatte et il gêne à la fois, hein, le dénommé, hein, entre le conquérant, hein, et le Premier ministre, hein, entre le conquérant qui a pu, hein, faire transporter, et ça a été la décision géniale, hein, qui a permis, hein, la conquête de Byzance par les Ottomans, à faire transporter les galères, hein, par la terre, hein, tout près d'ici, là, hein, c'est Boaz Kessem, justement, qui doit son nom à cet épisode, hein, donc directement, et comme ça pour être constitué en amont de la fameuse chaîne, hein, qui fermait la Corne d'Or en aval, hein, mais là, la chaîne était contournée, hein, et donc Recep Tayyip Erdogan, hein, est comparé, là, par des partisans, hein, aux conquérants, et à l'exploit, hein, du transport des galères au moment de la conquête, hein, de mai 1453, on met un rapport, hein, le grand projet, hein, de canal Istanbul. Hein, vous en avez suffisamment entendu parler, ça je ne vais pas y revenir, hein, avec cet horizon, hein, des 100 ans de la République, hein, 2023. Mais tout ça pour dire que vous avez... Hein, et depuis que l'islam politique est au rênes, hein, contrôle les rênes du pouvoir à Istanbul, c'est-à-dire depuis mars 1994, hein, ça fait à peu près 20 ans, hein, on assiste à une réécriture, hein, de l'histoire, à tout un travail, hein, de réécriture de l'histoire urbaine, et tout un travail de restauration, voire de restitution, c'est-à-dire de reconstruction, une fabrique, hein, du patrimoine, d'un patrimoine qui correspondrait, hein, aux attentes, hein, identitaires, hein, d'une classe montante, hein, ou en tout cas des groupes qui se reconnaissent, hein, dans le pouvoir actuel. Ici vous avez un exemple, hein, récent, à Okçularteckesi, à Okmeydanı, je le cite parce que il est très lié à la famille Erdogan, puisque le fils, un des fils de Recep Tayyip Erdogan, est impliqué. Il a, à partir de rien, simplement sur la base de gravures, hein, on a reconstitué. Et sachez que l'histoire de la caserne de Taksim, hein, ça n'est qu'un exemple. Sur 250 à l'heure actuelle, hein, il y a 250 demandes, hein, de reconstruction ex nihilo de bâtiments ayant existé à l'époque ottomane. Alors on s'appuie sur des gravures, on s'appuie sur des récits, on s'appuie sur quelques plans, hein, pour justifier. C'est du Bahriye Tekkesi, c'est un des premiers, hein, à Ayup, hein, jusqu'à Okçular Tekkesi, mais actuellement reconstruit à Kasım Pasha, le Tekme, mais aussi à partir de rien. Et ça change la physionomie de la ville, ça change le pays, ça change les références, hein, l'ambiance, hein, et ça parle davantage, hein, en tout cas, une certaine population, mais ça peut aussi, hein, déranger, hein, une autre. Et on a, quand, dans la politique de restauration à l'heure actuelle, on a cet impératif identitaire et cette volonté d'exalter un moment unique de l'histoire, alors qui est très simplifié aussi. L'époque ottomane, c'est quoi? On a l'impression qu'il n'y avait que des sultans et des sultanes à l'époque ottomane, qu'il n'y avait pas de classe moyenne, qu'il n'y avait pas de pauvres, et qu'il n'y avait, et on ne parle que des beaux siècles de la conquête et du XVIe siècle. On n'évoque pas les siècles plus difficiles. Donc il y a une espèce aussi de simplification de l'histoire ottomane, mais qui est rendue possible dans cette espèce de folie actuelle, d'ivresse, de pouvoir, de croissance, qui puise dans les grandeurs passées et qui les refabrique pour justifier les ambitions présentes. On pourra en reparler, mais je pense que le terme de révisionnisme historique n'est pas tout à fait faux, toute chose temps égal par ailleurs, pour caractériser la politique actuellement conduite en termes de restauration ou de reconstruction. C'est vraiment une fabrique du. Le patrimoine se fabrique. Quatrième enjeu, et là on pourrait y passer des heures, protéger l'environnement. Je le disais tout à l'heure, l'étalement urbain, évidemment, a des incidences en termes environnementaux, et le mode de croissance actuel d'Istanbul a un coût environnemental qu'on ne peut pas encore estimer, mais qui est considérable. Si le prix de l'essence venait encore à augmenter, on se demande comment pourra fonctionner cette ville compte tenu de l'étalement qui l'affecte. Alors, si on veut, vraiment, en serriant les dossiers de manière un peu cavalière, incontestablement, on a un mieux en ce qui concerne l'air, la qualité de l'air, depuis 1996, avec, vous le savez, le développement du réseau de gaz naturel, mais pas pour tout le monde. Et là, il y a des gens qui travaillent là-dessus dans la salle et qui pourront donner des précisions, le mode de chauffage est un indicateur parfait de la géographie sociale à Istanbul. Vous avez, quand vous survolez la ville, vous pouvez repérer justement les quartiers qui sont, contrairement au discours officiel qui parle des 3,5 millions d'abonnés, et donc qui montre la croissance des abonnés depuis 1996, c'est assez fulgurant. Bien, vous avez des gens qui ont l'installation mais qui maintenant ne l'utilisent plus parce qu'ils ne peuvent plus payer le gaz et qui recourent à d'autres combustibles. Qui recourt au charbon, au bois, voire. Et donc là, en hiver, quand il y a peu de vent, la géographie sociale d'Istanbul apparaît de manière assez nette. Là où la situation est vraiment, vraiment préoccupante, c'est pour les eaux, qu'il s'agisse des eaux du sous-sol. Et là. Vous imaginez les décennies qui seront nécessaires. Alors, si le discours officiel dit à présent la question des rejets domestiques est à peu près résolue, ça n'est pas faux. Là où le bas blesse, c'est pour les rejets industriels. On considère à l'heure actuelle que 80% des établissements industriels à Istanbul n'ont aucune rejette dans le sol, dans l'eau, dans la mer, dans les. Donc, et là, vous voyez, avec des conséquences qu'on ne peut pas encore. Qu'on ne peut pas vraiment estimer. Et ça rejoint évidemment un élément que j'évoquerai un peu plus tard, qui est celui de, au-delà là encore du discours sur le miracle stambouliote, toute la partie cachée de cette économie stambouliote, donc tous ces établissements productifs, tous ces ateliers qui ne sont pas déclarés et qui évidemment n'ont pas pour souci principal de respecter les normes européennes, même si le chapitre environnemental, vous le savez, a été ouvert dans les négociations très très récemment, n'ont pas pour préoccupation de satisfaire à ces normes. Donc là, on a vraiment un dossier qui est très complexe, on se rappelle pour ceux qui ont vu ces images de l'Ifremer qui montraient le tracé de la faille au fond de la mer de Marmara. Hein. L'Ifremer a fait une grosse campagne après le tremblement de terre d'août 99. Hein. Et c'était stupéfiant de voir à plus de 1000 mètres de profondeur hein, l'état, pour ce qui est de la pollution visuelle hein, de la mer, l'état du fond à 1000 mètres hein, de la mer de Marmara, à tel point qu'on ne voyait pas parfois la faille. Hein, c'était masqué hein, par des détritus hein, divers. Hein. Donc bon, là, un énorme chantier hein, pour des années, pour des décennies et des décennies. Je ne parlerai pas, puisque ça c'est beaucoup évoqué avec le troisième pont, hein, l'ouverture donc des périphériques qui vont desservir ce troisième pont, avec le troisième aéroport international, des espaces verts et des forêts. Hein. J'évoquerai simplement une loi hein, qui a été adoptée récemment, qui vise en fait, mais qui aura un effet incitatif très pervers, hein, qui déclasse hein, des terrains forestiers, qui continuait à être dans le cadastre hein, déclaré comme forestier, mais qui était de fait hein, urbanisé, hein, et qui permet donc à ceux qui les avaient occupés d'en devenir enfin propriétaires hein, pour en jouir pleinement. Hein. C'est ce qu'on appelle les terrains 2B. Hein. Cette loi concerne pour des plus de 15 000 hectares hein, Istanbul, hein, et... va avoir des effets incitatifs, évidemment, parce que c'est une forme d'amnistie hein, et qui peut donner des idées, évidemment, qui peut entraîner hein, de nouvelles occupations hein, fondées sur des espoirs hein, d'amnistie. On a toujours cette logique-là, hein, mais les statistiques hein, d'espace vert, hein, d'espace en forêt d'Istanbul hein, ont été revues assez radicalement hein, après cette loi. Mais c'est, d'un autre côté... C'est le pragmatisme de l'AKP là, qui est sur un principe de réalité. Arrêtons de nous voiler la face hein, sur l'extension de la surface forestière à Istanbul. Une partie de cette surface forestière n'existe hein, que dans le cadastre, hein, n'existe plus dans les faits. Prenons acte hein, et mettons en vente et déclassons. Alors c'est un peu violent, mais ça correspond hein, à un, ça relève d'un certain pragmatisme. Bon, je ne parle pas des sols à retraiter hein, dans les zones de régénération urbaine. Je ne parle pas hein, des remblaiements. Vous avez tous vu ça. C'est stupéfiant ce qui s'est passé cet été, quoi. En plus, juste après Gazi, hein, il y a ce remblaiement à Yenikapı, hein, pour créer un espace alternatif à Taksim, un espace de manifestation oui, au bord de la mer. Hein, ça permettra de... Mais c'est gigantesque. Hein, et ça... Ça casse complètement la silhouette quand vous êtes de la mer, mais même quand vous êtes à Samatia, hein, qui est un endroit magnifique. Hein, c'est le seul endroit où les murailles sont encore hein, baignées par la mer. Hein, et la route passe en arrière. Hein. Et bien maintenant, c'est Samatia, c'est le désenchantement total, puisqu'on a juste à côté cet énorme vomi hein, qui empiète sur la mer de Marmara, mais c'est plusieurs hectares, hein, et qui résulte d'un remblaiement. Hein. Alors, et on utilise, il y a obligation hein, pour tous les chantiers de construction à Istanbul hein, de déverser hein, dans certains lieux, hein, notamment donc là, il y a le troisième aéroport et puis il y a le bord de la mer de Marmara. Mais on ne pense pas, la question de l'amiante, hein, c'est une question qui n'est pas encore vraiment posée, hein, qui n'est pas encore construite comme problème de santé publique hein, en Turquie, mais qui pourrait l'être. Hein, mais si on annonce. Hein, si ce qu'on annonce est vrai concernant la transformation urbaine, à savoir que la moitié du tissu urbain d'Istanbul hein, devra être renouvelée, hein, donc détruite, eh bien, il y a lieu de s'inquiéter hein, quant aux effets hein, sur la santé publique des gravats et autres, hein, parce qu'on n'a aucune donnée précise hein, sur les matériaux qui ont été utilisés, et on peut supposer que l'amiante a pu être utilisé, hein, et là, c'est... assez vertigineux, qui pense. Bon, je passe hein, sur d'autres aspects. Ici, c'est une forme de transformation urbaine. Hein, je disais tout à l'heure que c'est la forme qui maintenant a le vent en poupe, hein, la transformation urbaine qui se saisit de l'alibi du risque sismique hein, pour s'opérer. Hein. Et Zeytinburnu hein, a été un des secteurs. Hein, ici, vous avez un exemple de ce qu'a fait justement l'IMP, hein, cette fameuse super agence d'urbanisme, hein, dont j'ai déjà parlé. Cinquième enjeu, hein, mieux intégrer le système de transport en donnant la vraie priorité hein, au transport en site propre. Hein. Bon, là, je n'y insisterai pas, hein, puisqu'on sait que c'est plus de 60% du budget d'investissement de la mairie métropolitaine d'Istanbul hein, qui passe dans les projets de transport. Hein. Mais essayons d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on connaît, hein, c'est le problème numéro un quand on voit les sondages d'opinion, c'est que chaque fois qu'on interroge un politique, etc., d'aller au-delà des slogans, hein, vous l'avez vu partout, hein, her yerde metro, her yere metro, hein, le métro partout. Hein. Bon, il y a eu quand même une discussion sur les calculs opérés, hein, qui sont un peu douteux, hein. Sur l'extension du réseau de métro, on a amalgamé en fait des formes assez différentes hein, de transport en site propre. Hein. Et bon, le tramway est assimilé au métro, ce qui est peut-être un petit peu rapide. Hein. Toujours est-il que on est encore, je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans une phase de rattrapage hein, de la croissance urbaine par le réseau de transport. Hein. Mais on a encore de gros problèmes, hein, outre les retards dans les chantiers, gros problèmes d'intégration des divers segments hein, construits. Le meilleur exemple, hein, c'est Yenikapı. Vous avez à la fois hein, un bout de tramway, un bout de métro léger. Hein. Vous aurez sans doute un bout qu'on attend hein, depuis 15 ans de vrai métro, hein, qui va venir en 2014 sans doute par ce pont hein, sur la Corne d'Or, hein, mais c'est un problème énorme hein, que d'articuler hein, tous ces éléments, hein, le tramway, le métro léger, le métro pas léger, hein, et le Marmaray, bien sûr. Hein, le dernier arrivé, donc le 29 octobre hein, 2013. Et donc ici, vous avez une image du bulletin d'Istanbul en hein, mai 2004, on a les travaux hein, qui commencent hein, vraiment. Et puis, là, donc novembre 2013, hein, la station de Sirkeci, je ne sais pas si... Enfin, c'est très laid, je trouve que toutes ces stations sont indignes. Enfin, à Üsküdar, dans un site aussi merveilleux, hein, surtout on a fait des découvertes à la fois ottomanes, byzantines, qu'on aurait pu valoriser. Enfin, bon, on a des boîtes hein, qui ressemblent à des centres commerciaux, de périphérie hein, de villes françaises. Et qui sont là au cœur de... Et c'est la même chose à Yenikapı. Enfin, je trouve que là, il y a eu une précipitation. Là encore, il faut nuancer le discours d'autosatisfaction hein, sur le Marmaray. On a inauguré seulement 12 km hein, sur les 78 hein, qui devraient l'être. Hein. Et il faut aussi se méfier d'un discours qui tente à rendre... il y a eu toute une polémique. Hein, responsable les archéologues hein, du retard du chantier. Hein, mais il y a des panneaux hein, dans les stations hein, qui donnent ce genre d'informations. C'est pas extrêmement. Donc je passe là-dessus. Hein, voilà le projet dans notre ici qui est utilisé. Bon, vous avez une multitude de projets, mais là je ne vais pas y revenir. Si ça vous intéresse, on reviendra dans le. Mais on peut dire que Marmara est une occasion un peu manquée hein, pour l'intégration du système de transport. Hein, puisque, en définitive, hein, quand on regarde la politique d'investissement et la politique de financement du développement de réseaux de transport, on s'aperçoit que pour le transport en site propre, on emprunte sur les marchés internationaux, alors que pour le transport routier, hein, eh bien, on est en autofinancement. Hein. Donc là, donc on a à la fois ce discours hein, sur le transport en site propre et la nécessité. Et vous avez toute la phraséologie de la durabilité, de du transport doux, etc. Et Monsieur Kadir Topbaş, hein, qui maintenant est sur les arènes internationales, hein, il a été réélu président de l'UCGL récemment, hein, et tient ce discours parfaitement. Hein, mais la réalité des investissements et les priorités, hein, quand on regarde le financement, va plutôt encore sur l'automobile. Hein, on étouffe hein, avec un parc automobile qui est plus de 3 millions hein, de véhicules maintenant à Istanbul, avec ces projets hein, de tunnels, hein, ces fameux projets hein, ici. Alors, nous n'en avons pour l'instant que deux segments, hein, le segment Dolmabahçe, Bomonti, etc. Hein, mais voilà tout ce qui est prévu. Hein, et si, on a aussi le segment, Çayırbaşı, à ça derrière, hein, tout ce qui est prévu. Et vous savez que c'est le développement, hein, de ce réseau de tunnels routiers, hein, qui a entraîné la démission du responsable, hein, de l'IMP, qui n'était pas au courant, hein, alors qu'il s'efforce d'élaborer, hein, des plans d'urbanisme pour Istanbul, il n'était pas au courant de ces projets-là, hein, et vous n'avez aucune articulation, hein, vous avez une approche très sectorielle, aucune articulation entre la planification urbaine, si elle existe, et la politique des transports. Et ça, c'est un véritable problème, hein. C'est lié, hein, à des cloisonnements, hein, institutionnels, mais c'est aussi une manière de conserver, hein, des niches, hein, pour des groupes d'intérêt. Hein, Je passe là-dessus, on pourra en reparler. Sixième enjeu, redéployer le dispositif productif et tertiaire. Je disais tout à l'heure, hein, que... Istanbul est lancé, c'est une politique officielle qui est affichée, hein, dans une désindustrialisation, hein, ce qui permet de libérer des terrains qui sont valorisés autrement et sous la forme de programmes d'immobilier de haut standing ou d'immobilier commercial ou d'immobilier de bureau. Hein, mais cette politique, hein, disons, ne concerne que la partie, hein, déclarée de l'activité industrielle, hein, et malgré, hein, les efforts, on voit bien ce qui se passe, hein, dans la péninsule historique. Vous avez depuis 2003-2004, hein, une politique qui s'appelait Musekent, Istanbul Musekent, hein, et l'idée était de vider, hein, la péninsule historique de tous les ateliers qui étaient censés nuire, hein, à l'atmosphère et nuire au déploiement, hein, propre de l'économie touristique. Hein, les artisans étaient, et les petits producteurs, hein, donc c'était de la plasturgie, c'était de la petite métallurgie, c'était des jouets, etc., ont été sommés, hein, de partir dans les zones périphériques aménagées dans les années 80. Ces zones périphériques aménagées dans les années 80, mais effectives seulement à partir du début des années 2000, sont maintenant désormais la proie, hein, de grands projets d'immobilier, de logements, et donc il faut aller plus loin, hein. C'est le cas, hein, de Iqteli, on pourrait développer la chose, je n'y reviens pas. Mais donc l'accent, hein, est mis notamment sur l'économie de la consommation, hein. Donc Istanbul n'est plus disons conçu, hein, par ses édiles comme une agglomération de productive, hein, elle est conçue comme une agglomération de consommation, avec l'idée que le tourisme est notamment un tourisme de consommation, hein, avec les shopping fests et autres qui sont organisés, hein, sur le modèle Dubaï, entre autres. Ça, c'est flagrant quand on voit le développement, hein, ces dernières années des centres commerciaux, hein, ou AVMR, le Schwedisch Markesi, hein, et c'est flagrant quand on voit la part, hein, dans le total des crédits de consommation consentis en Turquie, le seul département d'Istanbul, un département sur 81, c'est 50% du montant total des crédits à la consommation consentis, donc pour l'année 2012 et pour l'année 2013. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui est singulier, hein, incontestablement. Ici, bon, sur le redéploiement tertiaire, je n'y reviens pas. Bon, mauvaise cartographie, mais c'est tellement foisonnant que on s'y perd, hein, de ces développements, hein, de centres commerciaux. Alors j'ai évoqué tout à l'heure, hein, les torunlar, hein, donc ça c'était du côté de Başakşehir, dans ces nouveaux arrondissements, hein, mais on les retrouve aussi à Esenyurt, hein, avec ce fameux Torium, hein, inauguré par le Premier ministre il y a 3 ans, hein, et qui comporte en son sein une piste de ski, hein, c'est à signaler, c'est un lieu maintenant, une destination touristique, hein, pour la nouvelle clientèle touristique, hein, d'Istanbul, hein. On sort des schémas, hein, eh bien, d'un Istanbul visité en majorité par des touristes européens préoccupés de questions culturelles, hein, et on... Les acteurs actuels de l'économie touristique à Istanbul se tournent, hein, vers d'autres clientèles. Hein. Les Européens sont totalement oubliés, hein. Il faut l'accepter, en faire le deuil. Hein. Une clientèle donc, qui s'intéresse davantage à des lieux de consommation ou alors à des lieux identitaires hein, quand il s'agit de classe moyenne, supérieure hein, de pays en voie de développement, de pays musulmans ou de pays arabes, hein, qui est très clairement une des clientèles visées. Ici, vous avez Mall of Istanbul, donc, qui va comprendre, hein, donc Turunlar hein, en bas, à la fois un hôtel, donc des bureaux, le centre commercial hein, et donc des logements. Ici, vous avez les chiffres justement sur les crédits, mais les données les plus récentes vont dans le... Alors, j'arrête hein, pour qu'on puisse discuter un petit peu. Donc, l'obsession, hein, dans le discours officiel et dans l'esprit des édiles et dans les documents officiels, de faire d'Istanbul une ville monde compétitive, une ville tertiaire, hein, est une obsession un peu écran qui cache un certain nombre de réalités qu'il ne faut pas oublier et qui vont, comme toujours le refouler, hein, qui vont être payées. Hein, donc j'ai parlé des coûts environnementaux, mais on a des coûts sociaux, hein, et je n'ai pas abordé cette question, hein, mais c'est évident hein, quand on pense que près de 50% des personnes qui travaillent à Istanbul ne sont pas déclarées, et donc ne peuvent pas être syndiquées, ne peuvent pas accéder hein, à l'aide sociale enfin, ou autre. Donc cette économie grise omniprésente, hein, qui n'est pas vraiment, qui est un problème refoulé, hein, mais qui est une inconnue de poids hein, pour l'avenir. Hein. Dans une métropole où la question de la définition du bien public hein, et de l'action publique se pose, hein, pourquoi la définition du bien public dans la mesure où les biens publics sont bradés, on l'a vu, hein, les terrains publics sont vendus, le Toki, hein, servant hein, d'intermédiaire hein, dans ce transfert des terrains publics du domaine public vers des grands acteurs privés. Hein. Et donc, dans la définition aussi de l'action publique pour la justice spatiale, sociale, la continuité et la durabilité, termes qui sont parfois utilisés, hein, mais dont on ne peut pas dire hein, qu'ils soient mis au cœur des politiques, pardon. Donc, vous savez que se prépare un grand meeting hein, le 22 décembre 2013 hein, à Cadequeuil. Vous avez des appels hein, et qui vont un meeting hein, où devraient hein, converger un certain nombre de contestations très très diverses, hein, à la fois les contestations hein, des grands projets, les contestations des politiques de transformation urbaine dans toutes leurs dimensions, hein, contestations aussi des modes de gouvernance dominants, hein, qui ne sont pas transparents, hein, qui ne recourent pas vraiment à la consultation, hein, contestations aussi hein, des violences faites au passé d'Istanbul hein, à travers certaines opérations hein, de restitution. Donc là, se dessine hein, une convergence hein, de contestations faisant écho hein, évidemment au mouvement de Gezi, hein, mais le dépassant, me semble-t-il, hein, dans la prise en compte hein, de difficultés hein, de populations qui n'ont pas trouvé tout à fait leur place hein, dans le mouvement de Gezi, hein, sur la scène de Gezi. Donc voilà hein, ce que je voulais évoquer hein, rapidement pour ouvrir la discussion, hein, parce qu'enfin on pourrait développer un des points, mais c'est pas très utile. Voilà, c'est un autre projet de métro qui vient d'être annoncé, hein, de Mejidiyeköy, Çağlayan, jusqu'à Mahmut Bey, hein, donc il va suivre, enfin rejoindre en gros le deuxième périphérique hein, autoroutier. Non, mais il est déjà, alors que bon, rien n'a commencé, hein, il est déjà dans le discours officiel, hein, il existe déjà, enfin, il est dans le métro est partout. Voilà, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre.
Juste une question, juste pour fonctionner effectivement avec le micro, ça va circuler, ça sera plus simple pour que tout le monde puisse entendre.
Juste une question qui concerne la démographie. Est-ce que j'ai vu tout à l'heure un chiffre de 13 millions
oui.
et demi. Mmh. Est-ce que c'est fiable et comment sont faits ces recensements de population à Istanbul?
Alors, la méthode a totalement changé il y a quelques années. C'est-à-dire que vous n'avez plus la méthode du recensement. Vous savez qu'à donc, ces dernières décennies, on opérait les recensements de manière très musclée. Le couvre-feu était décrété, les gens on allait donc recenser les gens chez eux. Maintenant, c'est un système qui se fait automatiquement à partir de l'adresse. Donc, adressé derrière le, je ne sais plus quoi, Sayum. Ça a donné des rectifications, mais énormes. Mais on n'a pas encore assez de recul. Mais on a un collègue qui travaille là-dessus, qui montre que pour certaines villes, on a assisté à une chute considérable parce qu'on avait des stratégies politiciennes qui consistaient à amener, alors pour, disons, les compatriotes, le jour du recensement, se faire enfermer dans leur village ou leur petite ville, parce qu'évidemment, les transferts verticaux, les financements de pouvoir central étaient fonction de la population, donc il fallait avoir la population la plus importante, quoi. Donc ça, c'est fini. Vous avez eu donc un réajustement, et c'est très intéressant ce qu'il a montré. On voit pour certaines petites villes de la côte de la mer Noire, on est passé, mais carrément, de 80 000 habitants à 30 000 habitants, en changeant de système de recensement. Mais ce n'est pas encore stabilisé, il y a d'énormes problèmes, et pour l'élaboration des listes électorales, c'est infini. Voilà, et... Bon. Donc c'est des réajustements automatiques, vous avez tous les mois quasiment, on nous donne la population sur l'adresse, enfin c'est... Et sans procéder à un recensement tel qu'il était fait dans les décennies précédentes.
Dans l'intitulé de la conférence, on mentionnait aussi les élections municipales à venir. Est-ce que les partis d'opposition, alors je pense essentiellement à Istanbul, au CHP, ont un discours articulé justement sur la rénovation urbaine et sur comment, est-ce qu'ils ont des projets ou s'opposent à certains projets en particulier?
Pour ce qui est du CHP, on ne peut pas dire. On ne peut pas vraiment dire. Et d'ailleurs, je suis très curieux de ce qui va se passer à Maltepe, parce que vous savez que donc en mars 2009, la KP a perdu Sarrière, Maltepe, et notamment sur ces questions-là, vraiment sur les questions de transformation urbaine. Et donc les espoirs qui étaient mis dans le GLP étaient très, très, très forts. Et on ne peut pas dire que. Alors c'est vrai que le pouvoir d'une mairie d'arrondissement n'est pas considérable en définitive, par rapport soit aux acteurs privés, soit aux acteurs centraux qui peuvent présider à la transformation urbaine. Mais on peut pas dire, et on voit ce qui se passe à Izmir, on peut pas dire que le GEP est un mode, propose un mode de gestion urbaine alternatif. Alors, je sais que ça s'agite beaucoup au sein du parti, mais ça ne ressort pas vraiment, et que bon, les jeunes ou les femmes qui ont pu participer au mouvement de Gezi, etc., réclament d'être entendus, réclament... Alors, ça, là, pour le choix des candidats, on voit très très bien, il y a de nouvelles revendications qui apparaissent. Est-ce qu'elles vont vraiment durablement déboucher sur de nouveaux positionnements en termes de politique urbaine? Je suis pas convaincu quand on voit, sociologiquement... un positionnement qui est finalement assez comparable. Donc, on ne peut pas attendre, me semble-t-il. Alors, il y a Sarrière, il y a quand même un style un peu différent, mais dans les limites hein, que j'évoquais, parce que Sarajevo est complètement coincé entre des grands projets qui appartiennent au, au pouvoir central, hein, les projets du ministère des Transports, hein, donc que ce soit le troisième pont. Et donc, bon, Sarajevo évolue de manière contrainte. Hein. Mais je ne vois pas, enfin, il y a bon, voilà, le BDP ou le EDP hein, qui a effectivement un autre discours, hein, et le candidat. Surya Ender, effectivement, hein, a été, en tant que député d'Istanbul, il a joué son rôle au moment de Gezi, alors que les pouvoirs locaux étaient totalement absents. Quoi, hein. C'est vraiment saisissant pour nous. Hein. Alors qu'un discours officiel sur la décentralisation, etc., on a vu à Gezi, le maire d'Istanbul n'osait même pas parler en tremblant, ou quand il disait des choses, c'était, il se reprenait après en disant « Ouh là là, j'ai dit n'importe quoi, c'est pas vrai, etc. » Enfin, il a pas parlé en homme responsable de la situation, enfin, et contrôlant hein, ce qui se passait. Et je ne parle pas du maire d'arrondissement de Beyoğlu, qui là aussi a pas... Donc ça a été, enfin, la crise de Gezi pour les pouvoirs locaux, hein, c'est une crise quand même extrêmement, quand même cinglante, hein, un désaveu, un discrédit cinglant à mon sens, et on se demande comment ils vont, et le fait que Kadir Tobash ait été désigné à nouveau comme candidat par l'AKP me sidère. Alors je ne sais pas. Ça relève, mais je suis très surpris parce que ça, enfin, on peut pas dire qu'il est géré, enfin, la crise avec beaucoup de brio et de bon. Donc j'ai peu d'espoir.
Je voudrais vous poser une question plus particulière. En ce qui concerne les rénovations et l'aide de l'UNESCO à Balat, par exemple, qui a permis de reprendre en main une partie du bâti, et j'ai entendu dire que maintenant les pouvoirs publics avaient décidé, les municipalités de Fatih avaient décidé de détruire une partie de ces maisons. Ouais.
Effectivement. Bon, l'UNESCO dans l'histoire, l'UNESCO est, c'est un pouvoir symbolique. Hein. L'UNESCO n'a pas de moyens. Hein. Fait des rappels à l'ordre, envoie des. Voilà. Là, c'était plutôt l'Union européenne. Hein. Oui, effectivement, il y a souvent une confusion hein, entre le projet donc Union européenne, mairie Fatih, donc un projet 1997-2007-2008 et le nouveau projet, effectivement. Proposé par le maire actuellement en garde à vue, hein, donc je ne sais pas, qui a un projet de transformation et effectivement qui ne tient pas compte du tout des acquis à la fois méthodologiques et des acquis en termes physiques même du projet de l'Union européenne. Donc là, il y a une contradiction totale. C'est du gâchis, parce que c'est quand même des sommes énormes hein, qui ont été investies dans ce projet, ce premier projet. Hein. Qui aboutit, je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, c'est 250 bâtiments hein, qui ont été restaurés, à la fois leur façade hein, et l'intérieur, hein, mais qui ont été sélectionnés. C'est-à-dire que vous n'avez pas hein, de continuité, vous n'avez pas hein, d'homogénéité. Hein. Alors il y a eu des effets d'entraînement, il y a eu des effets de mimétisme, mais ce n'est pas avec les mêmes moyens. Hein. Il y avait par ailleurs une dimension sociale qui était de maintenir la population, là qui a été respectée, hein, mais évidemment qui n'a pas plu aux acteurs dominants hein, de l'urbanisme stambouliote, ce sont les acteurs privés qui spéculent sur les plévalues hein, possibles. Quoi. Et donc c'est très triste. Hein, parce qu'en fait, le projet de l'Union européenne et de la mairie Fatih, donc ancienne configuration, hein, est en train d'être un compromis. Hein, et surtout, il n'y a aucun suivi. Quoi. C'est ça qui est effrayant. Il devait y avoir, en direction des femmes, en direction des artisans, un certain nombre d'actions, de formations pour disons, de développer des savoir-faire, hein, permettre justement à la population de rester, d'avoir, notamment vis-à-vis de la clientèle touristique, une activité procurant quelques revenus. Hein, rien de cela n'a été fait. Et là, on vient de détruire, dans l'opération là, du quartier turc, hein, de Hayvansaray, hein, un petit quartier qui était un quartier tzigane, hein, juste au bord du périmètre, hein, du premier secteur de Fenerbahçe, hein. Et donc là, ça modifie, hein, totalement l'opération. Donc il n'y a pas aucun respect de la méthode, hein, dans la dimension sociale, dans la dimension consultation, parce qu'elle existait, c'est pour ça que ça a été lent. Le problème à Istanbul, c'est que ça va trop vite, tout va trop vite, quoi. Et donc il faut réinstaurer la lenteur qui est celle de la consultation, qui est celle de la contradiction, qui est celle du débat et qui n'existe pas. Voilà, ça va très vite et on est dans une espèce d'ivresse de la rapidité. Vous voyez le long du Ebèche, là, vous avez des panneaux qui vous indiquent la vitesse à laquelle avance le tunnelier pour tel ou tel. Vous voyez, on est allé à, je sais pas, on a percé 45 mètres aujourd'hui. Bon, on est, c'est une espèce. Et c'est une politique urbaine qui se mesure à, voilà, au kilomètre ou au nombre de logements. On est dans un discours très quantitativiste, hein, de la performance, quoi, et de la puissance. Et l'étalement, c'est aussi une expression de la puissance, qui fait l'économie, hein, de la consultation, de la contradiction, du doute, du temps. De l'évaluation aussi.
La consultation. Voilà. En fait, cette consultation est maintenant prise en compte par pas mal d'acteurs. Et même, on met en avant le fait qu'on consulte les gens. Je sais si vous avez remarqué. On met en avant le fait qu'avant de lancer un projet, on va demander aux gens s'ils veulent une cuisine dans leur salon ou une cuisine à côté. Il y a également on prend en compte, soi-disant,
Oui, on met en scène une espèce de consultation, mais qui est souvent, a posteriori, on consulte une fois que les décisions sont prises, on consulte sur des aspects très, très superficiels. Enfin, on l'a vu pour le pont, quoi, pour le maire a promis qu'on allait consulter sur le nom des bateaux, etc. Enfin bon, c'est des choses. Alors.
Moi, je voudrais poser deux questions qui vont ensemble. Est-ce qu'on n'assiste pas à une reconquête d'Istanbul? La première conquête étant les ossements leux sur les Byzantins. Et là, c'est l'AKP sur l'esprit républicain qui entraîne des transformations à travers l'organisation de la vie politique même profonde en Turquie. Et deuxièmement, vider le centre historique d'Istanbul, c'est pas rejeter des populations marginalisées qu'on ne peut pas soumettre et les mettre à la périphérie. Donc c'est plus que à travers ce projet d'organisation, c'est toute une politique, une stratégie profonde de renouvellement. Et d'ailleurs, les acteurs consultés se tournent plutôt non plus vers l'Europe, mais vers l'autre côté, pour bien marquer cette profonde évolution voulue. Et si on va vite, c'est parce que le sultan actuel n'a pas beaucoup de temps devant lui.
Oui, puis aussi, on n'est pas très sûr des lendemains économiques. Hein. Donc, voilà, il faut... Et puis les ressources se raréfient aussi. Donc, sans doute les conflits actuels sont liés à cette raréfaction et à ces difficultés. Bon, la reconquête, oui, c'est dans le discours, il y a une obsession, hein, de la reconquête. C'était le discours, on le sait, en mars 1994 déjà, hein, et ça a inauguré donc la politique de Recep Tayyip Erdogan, qui l'a conduit d'abord d'Istanbul et ensuite d'Ankara, hein, à Istanbul. Il y a une idée de revanche, hein. C'est une revanche de classes qui n'ont pas trouvé leur place dans l'espace politique
Temps. Il s'appuie sur les classes moyennes émergentes pour justifier ce
voilà, oui, oui. Voilà, ou des classes attachées à certaines valeurs, à certains modes de vie qui ne se sont pas reconnues dans les pouvoirs jusqu'alors et qui sont flattées à outrance. Hein. Mais on a aussi une dimension de purement spéculative, hein, et on le voit très bien à travers les opérations donc, de transformation urbaine conduites dans la péninsule historique, où la clientèle qui est visée hein, est une clientèle plus aisée hein, que celle qui est chassée. Alors, on veut dédensifier, c'est-à-dire que on veut réduire la population de la péninsule historique, on veut la réduire hein, d'un tiers. Enfin, je sais pas, c'est actuellement c'est 260 000, donc il faut construire hein, pour accueillir, mais on s'attaque aux maillons les plus faibles à l'heure actuelle. Donc vous voyez, les poches Tzigane, les poches, etc., et pour procéder à cette dédensification, mais c'est en même temps aussi... Hein, on pratique en quelque sorte la mixité urbaine, mais par le haut. C'est-à-dire que dans le discours, hein, c'est le maire Fatih disait très clairement, hein, il veut faire en sorte que des classes plus aisées hein, puissent vivre à Fatih, et donc il leur offre, hein, à la fois en termes de satisfaction symbolique, hein, donc d'environnement historique, etc., de décor, mais aussi en termes de mode de vie, hein, ce qu'il faut. Hein.
Les arrestations dont on a parlé au début, là, est-ce que ce ne sont pas liés justement au fait que ces acteurs de la spéculation étaient nécessaires à la reconquête, mais qu'ils deviennent maintenant encombrants et un petit peu trop incontrôlables pour un projet centralisé, qu'il faut donc même...
Est-ce que c'est pas... Là, c'est compliqué, on parle d'une opération en partie, alors même si vous avez eu des déclarations qui ont dit non, c'est pas nous, d'une opération en partie pilotée par... La communauté, hein, la Jemaat, dont on sait qu'elle est très présente dans la police, hein, donc ça serait une façon de prendre une petite revanche. Hein, bon, là, c'est très très difficile. Hein, mais je crois qu'on est quand même dans un moment où des pratiques... Hein, qui n'avait pas disparu, hein, même si on avait le discours de la politique propre, etc., reprennent un moment où plus rien n'est contrôlé vraiment, quoi, et ça risque d'aller de mal en pis. Hein, des pratiques qui étaient masquées, quoi, dans le cadre d'un système qui était assez bien contrôlé, émergent, hein, et avec des rivalités hein, qui s'aiguisent, hein, et qui apparaissent au grand jour, et on savait hein, tous ces fils de ministres, ces fils ou de premier ministre ou de maire ou de préfet, etc. Bon, tout ça c'était masqué, paf, là ça apparaît, et il y a une espèce d'effet domino, quoi, hein, à présent.
Est-ce qu'il n'y a pas un parallélisme à faire aussi avec ce qui se passe, par exemple, sur Inter-Sané, où on essaie de récupérer des problèmes d'intérêt, hein, oui. Qui est visé spécialement, sous couvert, bien entendu, d'avoir une éducation plus accessible pour tout le monde, ce qui est faux. Est-ce que ce n'est pas la même chose aussi, par rapport au plan d'urbanisation, un parallélisme qui entre des intérêts contradictoires qui finissent
sûr,
par
bien.
Échapper qui
finissent oui, par oui, échapper absolument. Avec un discours social, parce que la transformation urbaine, on justifie ça par la modernisation, par la démocratisation, etc., etc., alors même que on a une politique qui est focalisée sur l'accès à la propriété, hein, une politique du logement, et qui, enfin, en tout cas, les pouvoirs publics refusent toute responsabilité en termes de développement hein, d'un parc locatif hein, en direction d'une population qui n'a pas la possibilité d'accéder aux logements tels qu'ils sont vendus, hein, enfin, ou qui ne peut pas s'endetter. Hein, j'ai parlé du crédit, hein, mais on pourrait parler du crédit logement aussi, hein, c'est là aussi. Là, il y a des perspectives un peu inquiétantes, quoi, pour les personnes, voilà, les ménages hein, qui se sont endettés. Hein, et c'est tout le système Toki, un système d'endettement. Hein, donc, c'est l'accès à la propriété, mais en 10 ou 15 ans. Hein, et donc, ça suppose des revenus réguliers qui ne sont pas garantis du tout pour une grande tranche de la population. C'est pour ça que le discours social de Toki n'est pas en conformité, ne s'adresse en définitive qu'à une portion très très réduite de la population. Il n'est pas du tout en conformité avec la réalité sociale, avec les structures de revenus, cette population-là. Et je crois que ce décalage, ça a craqué, quoi. Ça apparaît au grand jour, quoi, entre un discours modernisateur, social, etc. Bon, c'est plus possible de tenir ce discours compte tenu de la de la réalité, hein, de la situation socio-économique d'une grande partie de la population, quoi, hein, qui peut plus y adhérer. Alors la seule parade, hein, c'est l'inclusion symbolique, hein, c'est-à-dire dans la communauté nationale. Alors c'est Turc Vision maintenant, pour le truc alternatif à Eurovision, c'est donc la communauté nationale, la communauté des Turcs ou la communauté musulmane, quoi. Donc c'est tout le jeu, hein, sur l'arène internationale. Pour donc ça a marché, mais les fondements de la politique étrangère, hein, a quand même affecté cette capacité de l'AKP et du Premier ministre à inclure symboliquement sur l'identité musulmane, quoi, et à se poser, hein, en défenseur, hein, des musulmans opprimés dans le monde entier. Là, je crois que...
Il ne faut pas trop déplaire aux investisseurs arabes qui ne voient pas d'un bon oeil non plus la suprématie du sultan qui reviendrait en premier plan en donnant des leçons de ce qu'est une démocratie musulmane.
Oui, oui, il y a eu des maladresses, hein, qui ont été... Enfin, ça n'empêche pas que les espoirs de l'économie sambouillotte restent tournés, hein, vers ces sources-là, hein, au bord du Golfe ou enfin, jusqu'à Malaisie.
Dernière question, si vous permettez. Le mouvement de dimanche, le 22, est-ce qu'il peut avoir un véritable impact politique en Turquie? Parce que Gezi, ça a été un fourre-tout qui n'a pas abouti, en tout cas, sur un réel impact. Que j'y fourre-tout, c'est négatif. Politique. Mais par contre, hein, est-ce qu'on peut espérer que ces forces, un petit peu, qui viennent de tous les côtés, peuvent. Se canaliser et donner une alternative crédible pour le municipal et pour l'urbanisation, globalement.
On peut avoir des... Bon, c'est un peu tôt, mais on peut avoir des espoirs, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une maturité, il y a une volonté de dépasser un certain nombre de clivages qui ont quand même miné l'action de la gauche, l'extrême-gauche. Il y a une volonté de... d'intégrer, hein, des forces sociales et politiques très très différentes sur des objectifs précis, hein, en essayant de dépasser, hein, ce qui a souvent fait obstacle. Et puis surtout, il y a un agenda qui est bien chargé, quoi. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de maturité dans le diagnostic, hein, sur les problèmes, qui sont les problèmes urbains d'abord, hein, et une capacité à connecter, une capacité à aussi... investir des réseaux transnationaux. Enfin, moi, je suis quand même impressionné par... Gezi, ça a quand même permis aussi... Il y a eu un effet formateur. Hein, voilà. Hein, ça a redonné de l'espoir, d'une possibilité, d'une action ayant des effets. Hein, mais ça a aussi développé, hein, des savoir-faire, hein, donné des idées. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est en train de se...
Il y a une coalition effectivement de forces politiques qui sont d'accord pour essayer de mettre à bas la KP d'une manière ou d'une autre. On voit notamment le choix du maire, du candidat JEP pour Ankara, qui est un gars qui est connu comme étant du MEP, donc il y a en fait une espèce de coalition de gens qui ont intérêt à ce que c'est leur chance. Enfin, ils vont pouvoir y arriver. En tout cas, ils y croient. Mais de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas l'intérieur de la KP, qui est en fait une coalition, bon, je sais pas, partie centre-droite, de gros trous noirs, où tout le monde, une coalition d'intérêts, il n'y a pas également cette cassure entre, d'un côté, la tendance Erdogan, qui serait plutôt tendance Mini-Gueuluche, donc qui va vers le nationalisme tel qu'il s'exprime, donc dans le sultanisme, enfin ce type de choses, l'ottomanisme, et de l'autre côté, la tendance effectivement plutôt Fethullahçı, qui elle, serait plus modérée, plus ouverte vers les États-Unis, ainsi de suite. Enfin, est-ce que ça a une traduction également, ceci au niveau urbain, c'est-à-dire par exemple dans les intérêts des groupes Tolona et autres, est-ce qu'on retrouve cette césure entre d'un côté un groupe des gens qui seraient plutôt tournés vers Mingueluche et de l'autre côté des gens qui seraient plutôt tournés vers Fethullahçı? Ou est-ce que le ultimate finalement n'a pas intégré et n'a pas d'intérêt spécifique là-dedans? Est-ce qu'il s'est uniquement cantonné au domaine enseignement et ainsi de suite?
Ah bah si, là, il a ses intérêts, enfin bon...
Vous avez que ça crée des conflits justement d'intérêts, ça n'aboutit pas.
Bon, je pense que là, c'est beaucoup plus éclaté, quoi. Enfin, on a des réseaux, hein, on a qui parfois interfèrent et parfois bon, peuvent agir en commun sur certains points, mais on n'a pas de bipolarisation comme ça, quoi. C'est des réseaux qui peuvent être des réseaux de commune provenance, c'est des réseaux qui peuvent être des réseaux de commune provenance géographique, hein, donc, mais aussi des réseaux liés davantage à la une commune formation, hein. Par exemple le réseau des diplômés, hein, qui est très proche de Recep Tayyip Erdogan, mais des diplômés des lycées Imam Hatip, c'est un réseau, c'est fondamental, on ne comprend rien à la politique turque si on n'a pas cette clé-là, hein, avec cette structuration, et c'est vraiment, c'est quelque chose, de, et ces dizaines de fondations, d'associations, et ce sont ces fondations, ces associations qui ont bénéficié ces dernières, enfin depuis 1994, hein, de pas mal de transferts de foncier public, hein, sur des baux amphithéotiques de 49 ans, 80, et qui ont connu un enrichissement, hein, énorme. Mais après, ça a fractionné aussi, hein, en fonction, voilà, de la provenance géographique, en fonction de, d'autres facteurs. Donc c'est difficile. Même pour la GEMAT, on a vu qu'il y avait une la GEMAT était très très impliquée dans l'allocation de terrain à des grands groupes, hein, on le sait, et c'est une partie des revenus, hein. Je ne citerai pas le grand groupe français qui, sans le savoir, contribue à enrichir quelqu'un qui, mais là encore, la GEMAT, on le sait, c'est pas une organisation intégrée, quoi, hein. c'est une nébuleuse, voilà, qui se reconnaît dans un chef spirituel, mais qui n'est pas du tout intégré comme une confrérie ou une néo-confrérie. Donc faut être elle est elle aussi plurielle, hein, plurielle. Donc et après il y a des réseaux qui sont liés à des partenaires à l'étranger privilégiés, hein, là aussi ça contribue à segmenter, quoi. Alors donc quand la conjoncture économique est bonne, quand le pouvoir tient bien les choses, quand la stratégie d'intégration symbolique fonctionne, tout ça est lissé, hein, mais quand la stratégie d'intégration symbolique ne fonctionne plus, quand les ressources arrivent, etc., ben, on voit réapparaître, hein, évidemment, ces conflits d'intérêts, quoi.
Qui est la responsabilité politique et historique du CHP? Parce qu'ils étaient quand même au pouvoir avant 1994, hein, pas longtemps.
Il y a eu quand même. Il y a eu la NAP. Oui. Il y a d'autres. Oui. Enfin, c'est très difficile de parler du GP comme ça de manière générale avant. Avant 84, quoi. Bon, même si on a une continuité du nom, vous n'avez pas de continuité vraiment. Alors, la KP essaye justement de jouer cette continuité pour imputer, hein, au GP actuel des méfaits, hein, du GP. Alors, même si on avait le même nom, c'est quand même un raccourci historique, quoi. Oui, enfin, du temps du SHP, hein, donc c'était. Juste avant l'arrivée au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, hein, on a eu de gros scandales. Enfin, il n'y avait pas un mode de gestion de la ville, hein, particulièrement différent, hein, du mode à Naples qui avait prévalu, hein, ou du mode à Kepé, hein, qui a suivi, quoi. Hein, donc effectivement, il y a une responsabilité. Enfin, vous savez, il y a eu ce gros scandale, hein, sur la régie, hein, des eaux et des canalisations. Ça a vraiment empêché le SHP, hein, ça a expliqué en partie le succès, hein, qui a étonné tout le monde quand même, du très jeune, il n'avait même pas 30 ans, Recep Tayyip Erdogan, en mars 1994, quoi. Donc là, il y a une responsabilité, hein, évidente, hein, des partis, outre le morcellement, parce que... c'était une époque, hein, où on avait trois ou quatre partis qui se réclamaient de la social-démocratie. Vraiment, là, il y a quand même une responsabilité historique très très grave, quoi. À un moment où il aurait été possible.
Pour le pays très cher, enfin, les Turcs, le pays très cher, on a cette responsabilité historique qui a fait que le CHP n'est pas forcément, pour la majorité des Turcs, une alternative crédible de force d'opposition. C'est ce qui manque, finalement. Mm-hmm. Le pays très cher. Mm-hmm.
Voilà, puis bon, il y a la nécessité de prendre en compte, mais qu'on ne prend pas en compte dans les débats politiques, tous les acteurs cachés enfin, de la politique urbaine. Hein. Les militaires au grand groupe, et en fait, on pourrait relire toute l'histoire urbaine à travers ces acteurs, et bien en deçà des partis, quoi. Hein, ces acteurs, et là, ce qu'on voit, c'est... L'acteur militaire est en train de perdre des positions, mais il contrôle encore 10% du marché foncier. Il en a lâché déjà quelques, quelques dizaines d'hectares là, ces dernières années, hein, dans le cadre de la recomposition des rapports de force entre institutions de sécurité, entre la police d'un côté et l'armée de l'autre. Hein. Mais bon, il reste... ça, on ne connaît rien. Hein. C'est pas... Mais on sait que bah, dans certains secteurs, voilà, l'armée participe hein, à ce redéploiement périphérique hein, du côté de Arnavutköy, de autres. C'est des à travers des opérateurs hein, comme Oyak Inshaat, hein, lié à l'armée, qui a développé au nord de Başakşehir tout une véritable ville nouvelle. Hein. Oyak et ils vont les jusqu'à des grands groupes aussi. Hein,
après nous avoir brossé ce tableau réaliste et assez désespérant.
Désespérant ? Oh non, non, c'est pas mon objectif.
Istanbul, où pourrait-on trouver, où peut-on penser trouver des forces qui pourraient changer, enfin qui pourraient influer la situation ? Parce que vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, de la grande qualité des planificateurs urbains. Mm-hmm. Qui sont en poste, mais qui s'opposent les uns aux autres, dont les structures s'opposent les uns aux autres. Est-ce qu'il y aurait, d'où pourrait venir le salut, en gros, s'il y en a un ?
Ah, si, il y a de l'espoir. Hein. Non, il y a des compétences, mais vous savez qu'actuellement, l'AKP est dans une offensive contre les chambres professionnelles, hein, justement pour leur faire perdre leur poids, leur pouvoir de faire contrepoids. Hein. Donc ça, c'est assez inquiétant, effectivement. Mais, bon, il y a de la ressource. Il y a de la ressource, il y a de la compétence. Après, il faut dépasser certains cloisonnements. Il y a cette dynamique démographique aussi, hein, qu'il y a cette massification de l'éducation qui fait qu'on a de plus en plus de gens compétents aussi, mais aussi de plus en plus de diplômés chômeurs. Hein, donc, toujours un... Vous voyez, un versant négatif à chaque élément positif. Je pense que l'intégration des femmes dans le jeu politique devrait jouer un rôle fondamental. Quoi. Plus de femmes, plus de jeunes. Moi, c'est assez basique hein, ce que je propose, mais je crois qu'on reste dans un système hyper gérontocratique et hyper masculin, et que ça a des effets pervers sur la pratique politique. Il faut éviter les cumuls, mais ça, on n'a pas de leçon à donner, loin de là. Hein, c'est des choses qui sont possibles, et on l'a vu, il y a des facultés d'auto-organisation qui peuvent être aussi réactivées, et qui peuvent... Donc, il y a tous les éléments pour que la situation puisse être... contrôlé, mais bon, ça suppose que le fonctionnement de certaines institutions soit un peu revu, notamment des partis, quoi, qui ne font pas la place qu'ils mériteraient, quoi, à ces compétences-là. Enfin, on voit au sein du GEP, vous avez des femmes extraordinaires, qui sont très compétentes, des jeunes, vous avez des... Bon, et ceux-là, ils n'arrivent pas à trouver leur place en tant que candidat quelque part, à être entendu vraiment, mais il y a quand même un pouvoir, vous avez des rapports quand même qui sont remarquables, qui sont faits au GEP, hein, sur les... mais vraiment, c'est une très grande qualité, il y a des compétences, mais tout ça, ça ne se traduit pas encore dans les personnes qui sont aux responsabilités.
Ouais,
mais ça, est-ce que ça peut se traduire simplement par une, en espérant que les générations, avec une sorte de passage de génération, mais les gens qui sont, qui tiennent les rênes de l'économie, de l'économie urbaine, de l'économie, ne sont pas prêts à lâcher prise non plus. Ils ne vont pas partir comme ça non plus. Ils ne vont pas laisser aller les gens.
Oui, ça, c'est un...
Allez-y, je fasse votre truc.
Certes, mais enfin, il y a quand même des pesanteurs institutionnelles, des modes de fonctionnement quoi, qui sont qui empêchent cette expression plus plurielle quoi, de la réalité des compétences, de la réalité sociale de la Turquie d'aujourd'hui quoi. Là, on est quand même dans des structures qui sont héritées d'années sombres quoi, mais qui n'ont pas fait leur leur métamorphose.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
L'appel pour le 21 décembre a été traduit en français, mais c'est pas très bien. Je le fais circuler si ça vous intéresse. Si vous voulez le corriger. Mais bon,
j'avais une question. Est-ce que le développement urbain d'Istanbul, compte tenu de la démographie istanbuliote et plus généralement turque, n'est pas inéluctable? Et finalement, la déforestation qui va avec?
Le développement dans le sens de l'étalement. On peut l'éviter. Hein. On peut l'éviter. Ça, c'est assez. Enfin, on connaît les mécanismes pour la densification, pour éviter. Là, il y a des. Non. Puis vous voyez, enfin, c'est. Là, les photos que j'ai pu vous montrer hein, de certaines périphéries, hein, vous avez quelque chose de, un tissu qui est très lâche. Hein, donc, une planification a priori hein, permettrait une utilisation beaucoup plus rationnelle de l'espace urbain, parce qu'on n'est pas du tout dans une utilisation rationnelle à l'heure actuelle. Hein, vous avez des immenses vides, vous avez une utilisation qui se fait le long simplement des axes routiers, hein, donc un étalement... Donc, oui, là, on connaît. Enfin, il y a des gens sur la ville compacte hein, qui ont des savoir-faire qui peuvent être appliqués aussi à Istanbul. Hein. Et puis surtout, c'est pas une question de pression démographique. C'est ce que vous voyez. Donc, il n'y a pas d'inéluctable, là. Contrairement... Oui, c'est le discours. Oui. Bon. Et c'est saisissant de voir comme encore maintenant, et dans la campagne électorale, ça va réapparaître. Hein, on accuse hein, les migrants qui sont... responsable de tous les maux hein, d'Istanbul.
Est-ce que ce n'est pas un problème plus global, effectivement, du développement de la région d'Istanbul et
oui. Le problème global, il est là, il y a une responsabilité politique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait que le pouvoir à Ankara joue pour l'image de la Turquie, pour le développement de la Turquie, joue Istanbul contre le reste du pays. Hein, et concentre encore les investissements. Non, bon, on ne va pas donner un modèle français, mais quand même, il y a des mesures hein, dissuasives qui peuvent être adoptées pour empêcher la concentration des investissements hein, privés et pour éviter, parce que même les investissements publics, vous regardez les investissements publics, même eux aussi se concentrent sur Istanbul, encore, hein, malgré toute la politique, hein, le discours sur... Il n'y a pas vraiment de discours sur l'aménagement territorial hein, en Turquie, mais... la politique des encouragements, des aides à l'investissement hors des zones déjà trop développées. Mais si vous regardez les chiffres, hein, vous constatez que investissement public comme investissement privé reste et rien n'est fait. Et au contraire, le pouvoir est là très. Quand vous regardez les rapports hein, du plan d'aménagement de 2006 comme celui de 2009, c'est stupéfiant de voir l'espèce de le rôle qui est dévolu à Istanbul, hein, à la, et le, dans le développement de la Turquie tout entière, hein, et les sacrifices qui doivent être consentis par le reste du territoire, hein, pour le développement d'Istanbul. Donc c'est, y a une volonté, hein, de vraiment concentrer, hein, les efforts, de focaliser, hein, sur Istanbul. Et je le disais tout à l'heure, ce désir de puissance, hein, aussi passe, hein, on connaît le discours, hein, sur la démographie, hein, mais c'est aussi basique, hein, pour Istanbul, quoi. On fera d'Istanbul une ville mondiale aussi quand Istanbul pèsera. Et alors, donc pour 2023, on vise les 18 millions, hein, pour 2050, les 25 millions. C'est les objectifs qui sont clairement affichés, parce qu'il faut faire de la même façon que le Premier ministre dit que le succès de la Chine, hein, est dû au fait que la Chine est très peuplée, donc il faut que la Turquie soit très peuplée. Hein. Non, mais enfin, on est un petit peu dans ce rapport-là, hein, aux chiffres, hein, et cette vision, hein, du grand chiffre qui fonderait, hein, la puissance, quoi. Donc, on n'hésite pas à concentrer, on n'est pas du tout dans un souci d'équilibre, hein, dans ce vaste territoire turc. Hein, non. Et il y a même les départements autour d'Istanbul se révoltent. En trace du côté de Tekirdağ et d'Edirne, ils disent, bah, ça suffit, on est totalement ponctionné, on récolte les industries les plus polluantes d'Istanbul, et on est ponctionné, on est totalement soumis, hein, au développement métropolitain. Hein. Donc là, il y a de vrais problèmes. Les ressources en eau, par exemple, c'est-à-dire, ça se fait de manière non négociée, hein, on va les chercher maintenant du côté de la frontière bulgare, hein, à l'ouest, du côté de au-delà de Sakarya, à l'est, mais sans se soucier des effets sur les territoires qui sont ponctionnés, hein, que ce soit du côté de Mélène, hein, ou du côté des montagnes de Yıldız, là, de Stranja. Vous voyez, là, vous avez vraiment une focalisation, quoi, sur l'intérêt d'Istanbul, qui est l'intérêt de la Turquie, et voilà. Et donc, il faut tout sacrifier. Hein. On sacrifie les richesses à cet intérêt-là. Et c'est un pari qui est très risqué, quoi. Et là aussi, le JAP, malheureusement, n'a pas vraiment de discours là-dessus. Hein. Et avec ce qui se dessine... Après, bon... Hors Istanbul, il y a des petites Istanbul qui sont les métropoles. Hein. Donc c'est toute cette politique, hein, de métropolisation de la Turquie, mais qui concerne simplement même pas un quart des départements d'Istanbul, le reste étant au service, hein, des développements métropolitains. Quoi. Le développement métropolitain, son primordial étant celui d'Istanbul. Non, mais c'est pas désespérant du tout, hein, parce que, enfin, non, simplement, on en a assez d'un discours sur le miracle turc, le miracle stambouliote. Bon, simplement, voir l'autre côté du décor, mais tout en prenant la mesure aussi des potentiels, quoi. Hein, et tout est encore possible pour Istanbul, hein, même si.
J'avais une dernière question concernant la pollution atmosphérique à Istanbul. Existe-t-il des données ou des informations pour savoir où c'est moins dangereux d'habiter?
Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas d'instance indépendante qui produit des données. On a des données qui sont produites uniquement par la direction de l'environnement de la préfecture. Et voilà. Il n'y a pas de pluralité, vous voyez, d'indépendance dans la production des données sur l'état de l'atmosphère. Et puis surtout, on a un nombre de stations qui est assez réduit. Et puis, compte tenu de la complexité d'Istanbul en termes topographiques, hydrographiques, de la complexité des configurations aussi en fonction de la saison, des vents, ça, c'est très, très... Les données officielles, puisque ce sont les seules dont on dispose, ne sont pas très satisfaisantes. Et là aussi, les chambres Il y a des chambres d'ingénieurs de l'environnement qui sont... Il y a une chambre des ingénieurs de l'environnement qui était prête à faire ce travail de production de données indépendantes, mais qui n'a pas pu, qui peut pas faire ce... Et plus maintenant, en tout cas, ce travail. Donc ça, c'est un peu aussi inquiétant pour la démocratie, hein, sur les questions de l'accès à, à l'information et de la, la, l'indépendance de la production de l'information. Alors, il y a une recherche qui a été conduite, très célèbre et très triste, ici à Dillowasser. Vous avez sans doute entendu parler, hein, qui est justement un des secteurs de relocalisation, hein, d'une partie de l'industrie chimique, hein, avec une très forte concentration là, d'industrie chimique, mais aussi cimenterie, hein, ou autre. Et là, il y a eu un travail qui a été fait par Onur Hamzaoğlu, hein, donc un professeur de médecine de l'université de Kocaeli, hein, mais là qui c'est affolant, mais vraiment je veux pas, mais, sur il a comparé, hein, excusez-moi, les excréments des nouveau-nés de Dillowasser aux excréments des nouveau-nés donc, dont les parents habitent au bord du Bosphore, hein, du côté de Üsküdar Beyler Bey, très exactement. Et là on a, enfin, des, une présence de métaux lourd, enfin, c'est pas le même monde. Hein. Les résultats là sont flagrants, hein, ils prouvent que. Donc voilà, mais cet homme a eu d'énormes problèmes, il a été traîné devant la justice par le maire de Kocaeli, enfin, il a été insulté par le maire de Kocaeli, qui lui a dit qu'il disait n'importe quoi, etc. Le Onur Hamzaoğlu a fait un procès qu'il a gagné contre ce maire, mais néanmoins sa crédibilité a été affectée, puisque même au sein de son université le Sénat a prononcé un avis disciplinaire. Enfin, il y a eu une énorme campagne, voilà, c'est tous les risques, hein, de produire des données qui ne correspondent pas, hein, au discours. Donc ça, c'est un cas dont la presse internationale a un petit peu parlé, mais qui est vraiment optimal, hein, Dillowasser, hein, le cas de Onur Hamzaoğlu, mais enfin voilà, des difficultés, hein, pour les personnes qui essayent d'affronter, de traiter ces questions indépendamment, hein, des discours lénifiants ambiants. Onur Hamzaoğlu. Pardon ?
Est-ce que c'est une problématique de la population, finalement, leur remonte,
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'approche systémique de l'environnement. L'environnement est abordé de manière sectorielle, et donc ça permet de noyer le poisson, et justement de ne pas... poser la question en termes d'interférence aussi entre les types de pollution, par exemple, mais aussi entre les diverses dimensions du système environnemental. Donc, il ne peut pas y avoir de prise de conscience véritable. Alors, vous n'avez ni la prise de conscience globale, hein, de l'environnement comme un système, ni une prise de conscience qui puisse s'appuyer sur un diagnostic, dans le temps, où on puisse comparer, vous voyez. Parce qu'il n'y a pas de mémoire, hein. Il n'y a pas justement d'instance indépendante à même, hein, de donner des repères pour pouvoir comparer et évaluer la situation présente. Et on est dans un rapport à l'environnement qui fragmente celui-ci, hein, et dans un rapport très techniciste où on trouve des solutions ponctuelles qui sont des dispositifs techniques. Alors c'est sur les stations d'épuration, par exemple, on montre la. Alors, ce sont des dispositifs techniques impressionnants, mais qui ne sont pas réinsérés dans un territoire, dans un système. Et c'est là que le bât blesse. C'est comme ce qui s'est passé avec la Corne d'Or. On a, ils ont purifié les eaux, réoxygéné les eaux de la Corne d'Or, mais on a traité la Corne d'Or par l'aval, sans se poser la question à l'échelle du bassin. Hein. Et donc toutes les petites rivières qui alimentent la Corne d'Or, hein, les nappes phréatiques, etc., tout ça, et c'est des énormes bassins de population, des bassins d'activité en amont, hein, Ali Beykoï, Eyüp, Kaetane, etc. Tout ça, c'est la Corne d'Or aussi, hein, mais ça n'a pas été pris en compte. Donc, Vous voyez, c'est politique. Donc, on avait des barres extraordinaires qui ont été installées, des systèmes d'oxygénation, tout ça est mis en scène par le discours et par le bulletin de la municipalité. Mais ça reste du ponctuel, hein, du dispositif technique éblouissant. Hein, mais ça ne pose pas la question, dans les termes dans lesquels il faudrait sans doute la poser, hein, dans des termes plus territoriaux et plus systémiques. Donc ça permet de diluer les responsabilités, de diluer aussi, d'empêcher une prise de conscience qui est globale, qui serait difficile à assumer aussi. Et donc voilà, dans les écoles, il y a une petite initiation, mais là aussi c'est fragmenté. Vous voyez, les mairies d'arrondissement se font des pédagogues de l'environnement, mais là aussi en valorisant des recettes techniques, mais sans s'appuyer sur un diagnostic global. Hein, vous avez pas les politiques urbaines, c'est ça l'échec de la planification, sont, alors en France, hein, l'urbanisme fait référence permanente au territoire. Les politiques urbaines en Turquie ne font pas référence au territoire. Le territoire n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas de mot. Hein, vous avez Alan, mais mais sinon, non. Bölge, mais c'est trop vaste. Et encore. Donc, c'est assez symptomatique, hein, de cette difficulté à inscrire les politiques urbaines dans un système d'interdépendance, dans une communauté de destin, et au-delà donc des cloisonnements entre institutions, qu'elles soient techniques ou politiques. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Et des solutions techniques fabuleuses. Hein.
Il y a des choses à manger. Peut-être pourrions-nous continuer de poursuivre la discussion, le débat autour donc, de nourriture terrestre. Il y a du vin, il y a des jus de fruits, il y a de nombreuses choses à manger. Je vous en prie, ne me laissez pas tout seul avec. Et vous pouvez bien sûr, si la conférence vous intéresse, vous inscrire à la prochaine. Ça sera donc donné par Elise Saint-Sicard en mars prochain. Et bien évidemment, voilà. Et bravo bien évidemment à Jean-François, qui était comme toujours brillant. Et pour une conférence qui, on espère, vous a plu, qui en tout cas a été réussie, puisqu'on était une cinquantaine dans cette salle. Vous pouvez bien évidemment soutenir la DFE dans toutes ses activités en adhérant à l'association. N'hésitez pas. Je vous en prie, le buffet est ouvert.